France Inter.
Et pour le journal, vous retrouvez Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour ma chère Karine, bonjour à tous. Il enfonce le clou, Emmanuel Macron, à propos de l'envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien. Notre devoir, dit-il, est de se préparer à tous les scénarios. Entretien dans le Parisien dimanche, analyse dans un instant avec Louise Baudet. Peut-il y avoir une stratégie commune à ce couple franco-allemand? Rendez-vous aussi avec notre invité Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. Dernier jour de vote en Russie avant le sacre de Vladimir Poutine ce soir. L'opposition appelle à se compter en participant à l'opération Midi contre Poutine devant les bureaux de vote. Nous verrons comment ça se décline à Moscou et également en ce moment à Paris. Pour remonter le niveau des collégiens en mathématiques et en français, on ne parlera plus de groupe de niveau, ni même de groupe de besoins, mais de groupe en fonction des besoins des élèves. L'arrêté est paru ce matin au journal officiel. Les conditions d'une sortie de crise ne sont pas réunies. Les agriculteurs s'impatientent. La FNSEA réclame ce matin encore une concrétisation rapide des promesses gouvernementales. Dans ce journal également, le bilan du parcours du 15 de France, deuxième du tournoi Destination, avec du bon, avec du moins bon, et surtout une relève prometteuse, nous dira Vincent Pellegrini. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur l'accueil des animaux de compagnie dans les EHPAD. Exemple en Suisse, où l'on a bien compris que les animaux rendent les pensionnaires moins stressés.
Un monsieur qui refuse tout contact physique. Impossible de lui toucher la main gauche. La chienne est sur le lit et elle lui lèche la main gauche. Incroyable.
L'Esprit Sport, après ce journal. Nathalie Yanetta, au programme de votre émission.
Oh là là, Éric Delvaux, mais c'est pas une émission, c'est une rencontre. C'est une conversation que je vous propose juste après votre 13h entre Tony Estanguet, l'organisateur des JO, le triple champion olympique, qui vient discuter avec le sélectionneur de l'équipe de France de foot olympique, le champion du monde Thierry Henry. Ça va être merveilleux. À tout à l'heure.
Une belle rencontre à venir donc. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, ambiance printanière, surtout pour le sud. Hein.
Oui, de l'Aquitaine à la région PACA, on aura un soleil voilé et on pourra atteindre les 25 degrés au pied des Pyrénées.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. C'est une idée fixe chez Emmanuel Macron, qui ne ferme toujours pas la porte à des opérations au sol en Ukraine. Il insiste donc dans cet entretien qu'il a accordé vendredi aux Parisiens, dans l'avion de retour au sommet de Berlin, entretien qui paraît ce matin. Il remet donc sur la table l'opportunité d'éventuelles opérations sur le sol ukrainien, mais la France n'en prendra pas l'initiative, précise-t-il. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour.
Derrière cette option, il y a aussi une vision stratégique différente selon Paris et Berlin.
Eh oui, pour Berlin, l'allié américain reste le pivot de la sécurité du continent européen. Alors que pour Paris, l'agression russe en Ukraine prouve que l'Europe doit justement savoir se défendre seule. Prudence et non-intervention côté allemand, c'est le poids de l'histoire. Là où la France se targue de conserver une vision stratégique. Certes, le retour de la guerre en Europe a déclenché outre-Rhin un changement d'époque et le refinancement massif de la Bundeswehr, mais l'armée allemande va mettre du temps à se reconstruire, là où la France est une puissance dotée de l'arme nucléaire et d'une armée de métier opérationnelle. Différence stratégique donc, mais pas de divergence, affirme Emmanuel Macron, qui pour convaincre joue la complémentarité entre une Allemagne qui aurait pour elle l'espace budgétaire et peut dépenser plus, et une France capable de tenir le seul langage que Vladimir Poutine comprend, celui de la force. Alors on va voir dans les jours qui viennent, et notamment à Bruxelles en fin de semaine, s'il n'y a vraiment pas de fâcherie avec Berlin, comme Emmanuel Macron le dit, sachant que l'alternance de fortes turbulences et de convergence, eh bien, c'est un classique de la relation entre deux nations condamnées in fine à s'entendre sous le regard des autres pays européens.
Et sommet européen jeudi et vendredi donc à Bruxelles. Merci Louise Baudet. Bonjour Patrick Martin-Jeunier.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po. Je vais citer votre dernier livre dans un instant. Est-ce que cette insistance d'Emmanuel Macron ce matin encore à envisager des troupes au sol en Ukraine n'est pas plus dirigée vers Vladimir Poutine plus que vers les alliés européens sur le mode un peu, Poutine ne nous fait pas peur?
Oui, bien sûr, mais c'est pas la première fois qu'il dit ça. Le problème, c'est une question de tempo. Il va à Berlin pour aplanir les divergences, pour bien montrer qu'il y a une unité très importante, notamment avec l'Allemagne et la Pologne. Et prenant l'avion de retour à Paris, il en rajoute une couche, comme vous avez dit, à savoir, il ne faut rien exclure. Peut-être sera-t-on obligé d'envoyer des troupes sur le terrain, en tout cas des hommes sur le terrain, sans pour autant en prendre l'initiative, et même s'il ne le souhaite pas. Donc c'est vrai qu'il en rajoute l'impression, c'est qu'il veut effectivement être une locomotive, entraîner un certain nombre d'États européens, une dizaine d'États européens sont d'ailleurs plus sur la ligne d'Emmanuel Macron, mais il n'en demeure pas moins que ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne, qui représentent quand même pratiquement la moitié de la population européenne, envisagent d'envoyer des troupes sur le terrain.
Mais Emmanuel Macron qui demande ce matin à l'Allemagne d'en faire davantage. Or, du point de vue des livraisons d'armes, l'Allemagne en fait déjà bien plus que la France, non ?
Oui, je trouve qu'on tape un peu trop sur l'Allemagne en ce moment, même si Olaf Scholz, le chancelier, est fondamentalement, finalement, pacifiste, héritier du pacifisme allemand. Il n'en demeure pas moins que depuis 2 ans, le pays qui a fourni de plus d'armement en termes financiers, c'est bien l'Allemagne, puisque l'Allemagne a fourni entre 17 et 20 milliards d'euros à l'Ukraine, quand la France en a fourni qu'environ 3 milliards dans le meilleur des cas. Donc c'est vrai qu'on a tendance à taper un peu trop sur l'Allemagne, même si ce pays a été timide au début, mais il est présent et voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de divergences, non pas à long terme, mais sur les modalités d'aide à l'Ukraine. Et effectivement, aujourd'hui, on peut dire que la presse allemande a été extrêmement sévère vis-à-vis de la France, de la même façon d'ailleurs que la presse française est sévère à l'égard du chancelier Scholz. Il y a manifestement des divergences et ce ne sont pas les sourires de façade de Berlin avant-hier, dans le cadre de cette réunion du sommet de Weimar, qui a pu dissiper ces malentendus.
Quand vous dites que les presse allemande et française sont sévères, c'est-à-dire qu'on prend le chancelier Scholz pour quelqu'un de trop prudent et on prend Emmanuel Macron, vu d'Allemagne, pour un va-t-en-guerre. Ce que voudrait Emmanuel Macron, c'est que l'Allemagne, finalement, livre à l'Ukraine ces fameux missiles Taurus, ces missiles longue portée. Pourquoi est-ce que l'Allemagne freine des pieds ?
Tout simplement parce que majoritairement la population est du côté du chancelier. Le Parlement allemand, le Bundestag, n'a pas voulu et a refusé l'envoi de Taurus. Mais il faut savoir une chose, c'est que le chancelier Olaf Scholz, ce n'est pas le président de la République française. Le président français fait ce qu'il veut. Il a tous les pouvoirs, pour ainsi dire. Tandis que le chancelier allemand est à la tête d'une coalition. Il doit gérer des équilibres. Et donc, il y a une coalition, il y a un Parlement qui ne souhaite pas envoyer des Taurus. Là-bas, en Ukraine, même si par ailleurs l'opposition au Parlement allemand critique le chancelier Scholz. Pour l'instant, il est à l'unisson de la population allemande.
Cette option de troupes européennes sur le sol ukrainien, parlons-en, ce ne serait pas forcément pour des combats, des opérations de combat au sol. Cette mission des Européens en Ukraine, elle pourrait avoir quelle forme ?
Écoutez, c'est vrai que la différence est ténue. Certains estiment que l'on pourrait envoyer des techniciens, des formateurs, des instructeurs, qu'on pourrait éventuellement envoyer du personnel du génie militaire pour déminer. Mais tout cela est un peu, ce sont des distinctions qui ne sont pas aisées, parce que dès lors que vous envoyez des militaires très officiellement sur le terrain, eh bien, on deviendrait, même tous les militaires, co-belligérants, c'est ça, aujourd'hui. Si vous envoyez des militaires du génie sur place, on devient co-belligérant.
Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier. Et pour le prolongement de cette interview, eh bien, on lira votre dernier livre, « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est le titre de votre livre qui est paru aux éditions Studi Rama. Merci beaucoup et bonne journée. En Russie, dernier jour de vote du scrutin présidentiel, le scénario est écrit d'avance pour le sacre ce soir de Vladimir Poutine. Les opposants ont même ce matin mené des actions symboliques dans les bureaux de vote. Malgré les menaces de représailles du pouvoir, l'opération s'appelle « Midi contre Poutine », tel que le souhaitait Alexei Navalny, le principal détracteur du régime, mort en prison, opération relancée par son épouse Yulia Navalnya. Midi, heure de Moscou. C'était il y a 3 heures. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Eric.
En direct de Moscou. Alors même si cette opération n'a pas été massivement suivie, elle a tout de même été visible, notamment à Moscou.
Oui, effectivement, c'était visible, c'était très soudain pour ce que j'ai pu voir. Ils sont arrivés d'un seul coup devant un bureau de vote du centre-ville de Moscou, 100 puis 200 personnes en quelques minutes qui sont venues faire la queue à midi précisément, et parmi eux, Elisabeth.
Nous sommes arrivés à midi contre, vous savez qui?
Nous sommes ici à midi contre vous savez qui, quelqu'un dont nous ne pouvons pas dire le nom. Nous voulons la fin de la répression dans notre pays. Nous voulons que la guerre fratricide prenne fin. Comme on le voit, il y a une file d'attente, donc l'action fonctionne. Et donc dire que tout le monde s'en fiche, que la majorité soutient le pouvoir actuel, ce n'est pas vrai.
Toute la semaine, hein, pourtant, les autorités russes avaient tenté de décourager les opposants de participer à cette action, brandissant la menace de poursuites judiciaires. Il y a eu des arrestations d'ailleurs. Ce midi, il y avait énormément de policiers postés devant le bureau de vote où j'étais, des policiers cagoulés parfois, mais ça n'a pas empêché Nikita de venir avec deux amis.
D'une certaine manière, tout le monde est habitué à ce que toute action de ce type soit accompagnée de quarts de police. C'est normal, ça fait partie de la vie. Pourquoi ça devrait-il entraver nos actions ?
Et malgré la bonne humeur apparente de ces jeunes hommes, l'ambiance n'était pas vraiment au rassemblement festif. Une jeune fille, les larmes au bord des yeux, me confiait son désarroi en admettant que tout cela, malgré tout, ne changerait rien. L'action de ce midi ressemblait plutôt à un baroud d'honneur de l'opposition avant le triomphe annoncé ce soir de Vladimir Poutine.
Et ce sera ce soir. Les bureaux de vote ferment à quelle heure à Moscou ?
Alors, à Moscou, à 20h, mais on vote jusqu'à Kaliningrad, l'enclave russe. Donc, jusqu'à 22h, heure de Moscou, 20h de Paris, on devrait avoir les premières estimations.
Merci beaucoup. Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. Opération Midi contre Poutine, en France également, en ce moment même, devant l'ambassade de Russie à Paris, où les Russes votent aujourd'hui encore. Vous y êtes, Sarah Mansoura, bonjour.
Bonjour.
Sous la pluie, dans la file d'attente, parmi les Russes qui vont donc aller voter.
Sous le regard de dizaines de CRS, parapluies, impairs et capuches s'étendent sur des centaines et des centaines de mètres. Beaucoup se préparent à attendre plus d'une heure. Anna regarde la foule avec le sourire.
Depuis longtemps, en étranger, c'était pas beaucoup de monde qui ont venu voter, mais cette fois-ci, beaucoup de monde ont venu. C'est un très bon signe, c'est parfait. C'est possible de faire un changement, de faire un impact.
Certains prennent en photo la file qui s'allonge encore, mais tous ces Russes ne viennent pas pour l'opération Midi contre Poutine.
Désolé pour les gros mots, mais c'est une grosse connerie. Désolé, je ne le supporte pas du tout.
Un certain nombre, comme Elvira, veulent soutenir l'actuel président, évoquant surtout la guerre en Ukraine.
Parce que sur le plan international, il a monté le prestige du pays. Je ne voudrais pas revoir la Russie à genoux comme dans les années 90.
À l'inverse, bien sûr, les opposants dénoncent aujourd'hui un simulacre d'élection qui va reconduire ce soir l'actuel président après déjà 24 ans de pouvoir. Vlad vient pour faire baisser un tant soit peu son score.
On a cette possibilité, même si on sait bien que ce sont un vote qu'on mise en scène dans un théâtre. C'est pas vraiment réel, mais au moins on peut montrer qu'on n'est pas d'accord avec la politique actuelle. Je veux voter pour un candidat qui est le moins pire.
Et ce vote n'est pas la seule action prévue aujourd'hui par les opposants à Vladimir Poutine. Une manifestation les emmènera cet après-midi, place du Trocadéro à Paris.
Sarah Mansoura devant l'ambassade de Russie à Paris avec les moyens techniques d'Éric Audra. On va maintenant parler de groupes au collège. Des groupes pour renforcer le niveau des élèves en mathématiques et en français. Les enseignants y sont farouchement opposés. N'empêche que l'arrêté de mise en place de ces groupes est paru ce matin au Journal officiel. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
On n'y parle plus dans cet arrêté de groupes de niveau, pas même de groupes de besoins, mais, et la formulation est importante, de groupes en fonction des besoins des élèves.
Oui, c'est bien la formulation de la ministre Nicole Belloubet qui l'emporte. Il n'est plus du tout question de groupe de niveau, comme le martelait encore le Premier ministre jeudi dernier lors d'une visite dans un collège. Les enseignements de français et de mathématiques sont organisés en groupes, dit l'arrêté, groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. La limite à 15 dans les groupes d'élèves les plus faibles proposés au départ par Gabriel Attal disparaît également. Le texte parle simplement d'effectifs réduits. On sait que la mesure est difficile à mettre en place par manque de professeurs et de postes suffisants, ce qui veut dire que les collèges adapteront la taille des groupes selon les moyens dont ils disposent. Enfin, par dérogation, l'arrêté stipule que les élèves peuvent retrouver leur classe de référence une à 10 semaines dans l'année. Une souplesse voulue et déjà annoncée par la ministre de l'Éducation nationale. Ces temps en classe entière permettront notamment de réexaminer la composition des groupes. Cela nécessitera un gros travail d'alignement des emplois du temps. Un véritable casse-tête pour les chefs d'établissement qui continuent, comme la majorité des enseignants, à s'opposer à cette réforme.
Sonia Princey. C'était il y a 3 semaines. Emmanuel Macron avait donné rendez-vous aux agriculteurs à l'Élysée dans 3 semaines, eh bien, après ce délai, aucune date de rencontre n'est prévue et les agriculteurs recommencent à s'impatienter avec le retour de blocages, comme par exemple à Pau en ce moment. Alors certes, les discussions avancent, mais il reste un fossé entre les déclarations initiales et les actes, déplore la FNSEA. Hervé Lapie est son secrétaire général.
Il existe un fossé entre les déclarations qui sont faites aujourd'hui en France par nos représentants politiques et les actes sur nos exploitations agricoles. On avait porté plus de 120 mesures. On a 62 mesures qui ont été retenues par le gouvernement. Mais en fait, on attend la déclinaison des mesures. Alors, on a des avancées sur certains dossiers, sur la manœuvre ou la prise en compte d'une partie des charges liées aux travailleurs occasionnels, sur les jachères, sur la fiscalité, sur le GNR. Mais en fait, on est bloqué aujourd'hui sur les retraites. On est bloqué aujourd'hui sur l'élevage. On nous annonce un plan de reconquête de l'élevage. Et dans le même temps, on importe de plus en plus de produits qui respectent pas nos normes, alors que ce soit en élevage, mais aussi en production végétale. Et je pense que, en fait, on marche sur la tête. On nous impose beaucoup de choses à nous, les agriculteurs français, et on continue à importer des produits qui respectent pas nos normes sanitaires et environnementales.
Et Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA. Le rugby, et quel match hier soir, les Français face aux Anglais. Et l'heure du bilan pour le 15 de France, qui termine son tournoi destination de fort belle manière. Donc, victoire face aux Anglais, 33-31. Un match à suspense grâce à une pénalité de Thomas Ramos en toute fin de rencontre. Les Bleus achèvent ce tournoi à la 2e place derrière l'Irlande. Un tournoi dans lequel les hommes de Fabien Galthié ont montré 2 visages, du bon, du moins bon, avec aussi une relève prometteuse, Vincent Pellegrini.
C'est l'un de ces jeunes joueurs lancés dans le tournoi par Fabien Galthié lors des 2 derniers matchs victorieux face au Pays de Galles et hier face aux Anglais. Auteur du 2e essai tricolore et d'une action d'éclat sur le premier, Léo Barret, 21 ans, a été élu homme du match.
Pour moi personnellement, c'est une énorme fierté de pouvoir gagner les Anglais. C'est quelque chose qui restera gravé à jamais dans ma tête. C'est sûr que cette fin de tournoi, elle était assez incroyable, c'est allé vite. Je figurais pas dans les listes au début, j'ai réintégré le groupe au cours du tournoi. Ça s'est fait assez rapidement et grâce aux anciens qui m'ont super bien intégré, prendre mes aises, donc c'est cool, ça nous a bien souri.
Après un début de tournoi déprimant, les Bleus ont trouvé la force de caractère pour aligner 2 victoires consécutives qui leur offrent une place de dauphin dans ce tournoi. Mais hier, le 3e ligne, François Cross, oscillait entre fierté et regret.
Bien sûr, on s'est loupé sur le début du tournoi, donc forcément, on est des grands garçons et on se devait de réagir. Et c'est dommage, au vu de la qualité qu'on arrive à mettre sur certains matchs, sur certains moments, c'est dommage de finir second dans un tournoi où on a eu 3 réceptions. Donc voilà, on n'est pas satisfait, mais on est heureux du résultat de ce soir.
Prochaines échéances pour le 15 de France, une tournée en juillet en Argentine, sans les joueurs cadres qui seront laissés au repos, et la tournée de novembre avec en point d'orgue un choc face aux All Blacks néo-zélandais au Stade de France.
Et voici l'heure des bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce matin, chez nos voisins suisses, pour aller visiter une maison de retraite qui accepte les animaux de compagnie. C'est en préparation aussi en France. En Suisse, le Martagon fait figure d'exemple, cet établissement où les animaux sont en chambre, avec aussi la présence d'une spécialiste en médiation animale. Et c'est une Française, elle s'appelle Emmanuelle Pfrimer. Elle vient rendre visite aux aînés avec des animaux de toutes sortes.
Alors, on a Edwige la lapine, Flora la tourterelle, Tic le cochon d'Inde et plutôt le chien.
Bonjour plutôt.
On y va ?
Les animaux sont dans leur caisse, calés sur un chariot.
On va voir.
Claudine, qui n'a pas d'animal avec elle, une personne qui a des troubles avec de l'agressivité. Et avec les animaux, il n'y a plus d'agressivité. Claudine ?
Ouais.
Bonjour, c'est Emmanuel avec les animaux.
Bonjour Madame Claudine.
Je ne connais pas.
Sandrine est avec nous pour faire un reportage sur les animaux qui font du bien.
Oh, mais tous les animaux font du bien.
Ah oui, je sais que vous les aimez. Hein. Je crois qu'il y en a un que vous aimez particulièrement.
Oui, le cochon d'Inde, oui.
Emmanuel ouvre la petite caisse.
Hop, c'est mon petit chéri qui vient.
Comment il s'appelle, votre petit chéri ?
Tic, et puis il y a Tac. Hein.
Ce sont 2 frères, Tic et Tac.
Et Tac et Tic.
Je vais vous le donner dans le bras gauche, un peu comme un bébé.
Comme ça, un bébé. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est content.
Vous n'avez pas sourire juste avant qu'il arrive ?
Ah ben oui, ça me fait du bien. Hein, mon petit cochon, oh, c'est tout doux.
Ça vous fait du bien de le caresser, là ?
Ah oui, parce que je pense à mon mari.
Les animaux rappellent la mémoire émotionnelle. Il y a de la verbalisation sur le passé qui va revenir. Donc, toutes des choses qu'on ne voit pas le reste du temps.
C'est joli, les cochons d'Inde, je trouve.
On va le rentrer, je voudrais vous amener la tourterelle.
Adieu, petit cochon d'Inde.
C'est fou, le visage de Claudine, c'est comme allumé.
Oui, C'est tout le temps comme ça. Je pense à un monsieur qui refuse tout contact physique. Impossible de lui toucher la main gauche. La chienne est sur le lit et elle lui lèche la main gauche. Le monsieur n'a aucun mouvement de retrait. Il a une respiration tout apaisée. Incroyable.
Ah, c'est bien. Tu causes dans nos parleurs, là.
Claudine poursuit sa conversation avec son cochon d'Inde à travers les barreaux de sa caisse. Dans le couloir, un chat fait sa toilette. Une infirmière change une litière. L'animal est partout. Transposable en France ?
Ici, vous avez une soignante pour 5 personnes. En France, quand des toilettes se terminent à 14 heures, une soignante a fait 35 toilettes de 7 heures à 14 heures, vous imaginez ?
C'est-à-dire que cette personne-là lui demandait en plus d'aller promener le chien ou de changer la litière ?
Exactement. Je suis entièrement pour, mais préparée sous certaines conditions et surtout avec d'autres moyens.
Cui, cui.
Le tour de la tourterelle.
Elle s'appelle Flora.
Oh, comme elle est belle, la Flora. Ouh, aïe. Tu vas où? Tu vas aller sur le lit, hein? Je te permets.
Ça y est, elle est partie, elle s'est envolée.
Salut, hein? Porte-toi bien, hein? Bonnes vacances, hein?
Voilà, les bonnes ondes des animaux et les bonnes ondes avec cette chronique de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Encore du soleil pour la moitié sud.
Oui, un soleil voilé mais bien présent en dessous d'une ligne Bordeaux-Lyon. On aura juste un petit peu de grisaille côtière entre la Méditerranée et les côtes corses. Tout ça dans une grande douceur. Hein. 18 degrés à Bastia, 19 degrés pour Nîmes, 20 degrés à Perpignan, 21 à Bordeaux et Biarritz, 23 à Toulouse. Une maximale qu'on pourrait même dépasser dans les Pyrénées-Atlantiques où on attend des pointes à 25 degrés.
Oui, et cette douceur, on la ressent aussi sur la moitié nord.
Oui, on sera là aussi plus 5 degrés au-dessus des normales avec 14 degrés pour la plus basse à Brest et Lille, 15 degrés à Metz, 16 à Rouen, 17 degrés à Paris ou 19 à Bourges. En revanche, côté ciel, changement d'ambiance avec beaucoup de nuages. Encore quelques averses sur la pointe nord, le flanc est, le massif central. On aura également une deuxième salve d'averses dans la soirée et la nuit prochaine entre les Charentes et le flanc est. Mais après le passage de la perturbation, on peut également avoir quelques éclaircies. Ce sera le cas notamment sur la Bretagne et la pointe du Cotentin.
Céline Dacosta.